Bonjour, j'ai écrit il y a 2 ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 2. Vendredi midi.
Salope de monstre de foire, tu devrais te
Anita
taire
est à
là-bas,
l'école
pourri.
et n'a rien vu de ce qui s'est passé entre sa mère et Fabien. Elle a bien entendu le choc sourd de la voiture contre le pot de fleurs, mais a préféré entrer dans le bâtiment plutôt que regarder. Ça aurait fait trop de remue-ménage pour son envie de calme. Anita n'aime pas particulièrement le mouvement. Elle a 7 ans, deuxième niveau de l'école primaire, se débrouille bien avec les lettres, mieux avec les chiffres. Elle est une enfant qu'on ne remarque pas trop, pour laquelle l'instituteur se contentera d'avoir une affection distante pendant le temps de l'enseignement, le temps où leurs vies se croiseront, elle à l'aube de la sienne, et lui au beau milieu de son après-midi. L'instituteur a une quarantaine d'années au rayonnement paisible. Anita l'aime bien, il est agréable, patient et doux. Il s'appelle Jean Maclou, comme les magasins. Jean se rase tous les matins avec un appareil dernier cri, laser intégré. Il aime la sensation de ses joues glabres. Il aime que quelqu'un pourrait aimer les caresser. Il a été marié, il a même eu des enfants, le tout très tôt dans sa vie, mais l'épouse l'a quitté pour s'installer ailleurs, et les enfants ont fini par préférer la ville de leur mère, plus attrayante, plus lumineuse. Jean sait pertinemment que la géographie seule a permis aux enfants de décider et n'en a pas fait grand cas. Ils se sont tous beaucoup aimés il y a des années de ça, quand les enfants étaient encore des sortes d'animaux qui ne questionnent pas leur raison d'être au monde. Mais ce temps dure peu. Vite, les enfants parlent, raisonnent, se construisent une personnalité. Vite, Jean a été obligé de se rendre à l'évidence. Ses enfants étaient comme sa femme, des individus qui, s'il les avait croisés dans la rue, ne lui auraient pas forcément plu. Jean Maclou enseigne depuis le début de sa carrière dans l'école primaire de cette ville et a acquis depuis une dizaine d'années de n'enseigner qu'aux deux premiers niveaux. L'intermédiaire est géré par la directrice, une jeune femme dynamique aux cheveux courts, et les deux niveaux finaux sont le domaine de l'institutrice, si proche de la retraite qu'on pense depuis plusieurs kermesses qu'il faudrait lui faire un joli spectacle émouvant, avec des chants et des fleurs, sans que personne n'ose vraiment s'enquérir du temps qu'il lui reste avant de pouvoir se consacrer au jardin et au voyage en camping-car. L'instituteur est assis derrière son bureau et se délasse au son du labeur enfantin. Les jeunes pieds font crisser les chaussures à force de concentration et d'un peu de désespoir. Les têtes sont penchées sur les copies, visages comme absorbés par les tables, cheveux qui s'ébouriffent à force de passer des mains poisseuses et tachées d'encre dedans. Le soleil entre par les grandes fenêtres, c'est la fin de la matinée, quelques ventres gargouillent. Sur le tableau blanc sali, le soleil fait danser les ombres de feuilles, celles du platane qui trône au milieu de la cour. Il faut plisser les yeux et tourner légèrement la tête pour réussir à déchiffrer la liste d'additions que les élèves doivent solutionner avant que la sonnerie ne retentisse. Jean est bien assis dans sa chaise, qu'il a lui-même achetée pour être confortable, dans un magasin d'ameublement d'une zone commerciale à 3 villes d'ici. L'organisation des magasins par thème l'avait réjoui, lui qui n'aime pas avoir à chercher quelque chose qui devrait être simple à trouver, ainsi que l'organisation du magasin lui-même, intelligemment compartimentée selon les pièces censées accueillir les meubles vendus, avec le sourire à leurs heureux nouveaux propriétaires. Jean pense que vendredi en 8, les vacances de printemps arriveront, ce qui ne fait plus que quelques jours à attendre. 7. Les vacances seront l'occasion pour lui d'un petit voyage en montagne, solitaire, plein d'un air pur et de fleurs naissantes sur des prairies accueillant des vaches parfaitement proportionnées. Peut-être que Jean profitera du retour pour faire un saut dans la ville de son ex-femme, la voir les enfants, manger un morceau. Faire un saut, voir, manger un morceau, ce sont 3 choses que Jean pense qu'il est même agréable de faire quelquefois dans l'année, mais au-delà desquelles il ne veut pas s'aventurer. Il a mis sa voiture en révision chez le garagiste en prévision de ce voyage qui l'obligera à rouler une dizaine d'heures dans un sens puis dans l'autre tout de même. Il ne faudrait pas se laisser surprendre par une panne qu'on aurait pu prévoir dans un lieu inconnu où tous les repères sont bouleversés. Voilà que la sonnerie retentit. Les têtes se dressent, les visages à la fois anxieux et soulagés apparaissent, les feuilles sont triturées et sans qu'il ait besoin de dire un mot, parce que depuis toujours, avec ses élèves, l'instituteur fait en sorte de créer pour les entrées et les sorties de la salle de classe un rituel silencieux. Les enfants ramassent leurs affaires. On entend les trousses qui s'ouvrent et se ferment, les chaises qu'on pousse, puis déposent leurs copies sur le bureau et sortent. Une fois dans le couloir, ça court, ça crie parce qu'on ne peut pas retenir la nature enfantine trop longtemps. D'ailleurs, qui le voudrait? Anita est maintenant assise à une table, dans la cantine, parmi ses camarades qui ne lui prêtent pas attention. Elle a la peau hâlée, Anita dont la mère est blanche comme le lait et le père inconnu.
Moins que certains Arabes, mais plus qu'une Espagnole quand même.
Lui disait hier la coiffeuse après lui avoir demandé d'où lui venait un si joli bronzage. D'abord, Anita avait répondu qu'elle ne savait pas. Elle avait toujours eu la peau comme ça et l'été c'était un peu plus foncé. Alors la coiffeuse avait dit
« Ça doit venir de ton papa ».
Parce qu'elle avait bien vu que la maman d'Anita avait la peau blanche comme le lait quand elles étaient entrées dans son salon. C'était la troisième chose qu'elle avait remarquée quand la mère et sa fille avaient passé la porte. D'abord, le joli bronzage de la fille, puis les prothèses que portait la mère à la place des bras, et enfin la peau de neige de celle-ci. Il n'était pas possible de ne pas voir le lien de parenté entre les deux, qui se ressemblaient fortement en dehors de leur couleur de peau et de l'absence de bras chez l'une et leur présence chez l'autre. Même visage charnu et long, aux pommettes saillantes, mêmes yeux noisettes, de jolies noisettes qui brillent, mêmes cheveux couleur de terre, longs, lourds, lumineux. Anita avait dit « Je sais pas, je connais pas mon père, et ma mère non plus le connaît pas ». Alors la coiffeuse s'était tue, respectueuse des secrets de ses clientes, d'autant plus respectueuse que c'était la première et, elle le sentait bien, la dernière fois qu'elle les voyait. Si elle avait demandé à la mère d'Anita d'où elle venait, celle-ci aurait répondu « Cette ville-là, plus au nord, nous en sommes sortis ce week-end, ma fille et moi, pour prendre l'air, et comme elle voulait une frange et que nous avons vu votre salon. » Anita et sa nouvelle frange attendent patiemment que la cantinière arrive à sa table. Les autres enfants parlent entre eux et Anita garde le silence. Personne n'a remarqué sa frange ou personne n'a jugé bon de le lui dire. Ce n'est pas grave. Elle n'écoute pas ce qu'ils disent autour d'elle. Elle est solitaire et tout le monde a l'air de s'en trouver fort aise. Personne ne lui parle et elle ne parle à personne. Quand on est obligé, dans les travaux de groupe par exemple, ou pendant le sport, si le sport est en équipe, on fait avec, on est poli. Anita impressionne un peu les autres, et puis il faut dire ce qui est. Les enfants reproduisent souvent les comportements sociaux de leurs parents, et la mère d'Anita est elle-même plutôt solitaire. L'absence de bras ne doit pas aider à se faire des amis, se dit Anita parfois, trop heureuse d'avoir les siens et de pouvoir s'en servir pour toutes sortes d'activités. Parfois, elle fait de la corde à sauter et de l'élastique avec des camarades, mais elle sait pertinemment qu'elle n'est conviée que lorsque une autre est malade, dans un souci d'équilibre numéraire. Ça lui va très bien. Elle ne pense pas à s'en plaindre. Elle aime souvent mieux être comme ce midi à la cantine, assez proche du brouhaha pour en sentir l'énergie, assez à l'écart pour se sentir respirer. Entre la fête et la porte de sortie. La cantinière lui sert son assiette. C'est une escalope de poulet, avec un peu de purée et des haricots verts. Anita mange avec appétit. Après le repas du midi, les enfants de l'école primaire ont le droit à 15 minutes de temps libre circonscrit dans la cour de récréation où trône le platane. Les garçons et les filles s'élancent allègrement dans l'espace, décrivant à toute vitesse des lignes droites et des courbes. S'il faisait nuit et si on leur mettait des lumières sur les fesses, on pourrait croire à une vision miniature du trafic new-yorkais. Certains et certaines sont à l'arrêt, en pleine conversation, disputes, jeux de mains et claquements de paumes. Les élèves s'agrègent par trois souvent, et parfois deux groupes s'agrègent à nouveau pour en former un plus grand qui, c'est possible, se scindera quelques minutes plus tard en deux nouveaux groupes. Des atomes, des molécules, une répétition générale de schémas physiques. Quelques enfants, comme il semble que ce soit nécessaire dans tout groupe humain, sont esselés, quelques-uns semblant le regretter et faisant des efforts démonstratifs pour se montrer dignes d'intérêt. Quelle dure leçon ils apprennent alors. Les autres enfants, parce qu'ils sont des enfants justement, n'ont pas de pitié et sont souvent ignorants de la charité. C'est qu'ils sont encore à un âge où la conscience de la communauté ne fait pas le poids du tout face à leur propre conscience d'être. Parce qu'ils sont encore à cet âge où l'on croit que si la mort nous fauche, la terre perdra son habitant le plus important et tout cessera. Ça, c'est ce que pense la cantinière, à qui revient la charge de surveiller la cour d'après-déjeuner. Elle est apprêtée aujourd'hui, la cantinière, parce que c'est le début du printemps et que ça lui a donné envie de s'apprêter. Le fait d'avoir repris ses études aussi la rend plus encline à vouloir faire paraître ce nouveau rayonnement qu'elle sent à l'intérieur d'elle depuis qu'elle s'instruit. La cantinière est appelée la Turque par beaucoup de gens pour la différencier de l'autre cantinière dite la polio, parce qu'elle en a eu une quand elle était jeune qui l'a laissée salement boiteuse. La Turque ne l'est pas, Turque, mais personne n'a pensé à lui demander. Elle est née dans une ville voisine, de parents kurdes irakiens, arrivés dans la région quelques 10 ans avant sa naissance. Autre chose que trop peu ont pensé à lui demander et qui aurait pu être utile pour la différencier d'avec sa collègue. Son prénom. Ça n'est presque jamais venu à l'idée de personne. D'ailleurs, même par ceux et celles qui le connaissent, ce prénom, Hazal, n'est utilisé qu'avec beaucoup de parcimonie. On a plutôt tendance, dans le cadre de son travail de cantinière, à la fixer jusqu'à ce qu'on soit sûr d'avoir capté son attention, puis, une fois cette certitude acquise, à formuler l'information, la demande ou la consigne. Pas tant qu'on la prenne pour une moins que rien, juste que c'est plus simple. Hazal pense, grâce à ses connaissances nouvellement acquises à l'université, où elle étudie l'histoire et la psychologie dans un double cursus épuisant mais très enrichissant, et où elle distribue son prénom à qui veut, que cette façon de s'adresser à elle est moins due à ses caractéristiques physiques qui l'éloignent de la majorité des habitants de la ville qu'à la fonction qu'elle occupe. En effet, la polio elle-même n'est que rarement appelée par son prénom, Iga. Alors que, outre ses jambes tordues, elle est tout de même la petite cousine du maire de la ville. Hazal pense aux domestiques qu'on appelait Marie parce que c'était plus pratique et rapproche cette coutume du traitement qui lui est réservé dans son cadre de travail. En être consciente ne la révolte pas parce qu'elle voit dans ses études une possibilité d'ailleurs et de nouveauté, de reconversion. Quand la Turque aura fini ses études, elle cherchera un métier adapté à ses nouvelles qualités dans une ville plus grande, ailleurs, sûrement très loin. Hazal n'a pas peur d'aller très loin, d'autant qu'ici elle n'a plus de famille, ses parents kurdes irakiens étant morts il y a quelques années alors qu'il rendait visite à la famille, là-bas. Cette ville-ci est petite et a souffert de la fermeture d'usines aux alentours qui a créé un taux de chômage impressionnant, corrélé à la fameuse crise qui semble durer depuis 20 ans, mais a gardé ce quelque chose de bourgeois. C'est la petite ville des notables et des docteurs, des contremaîtres aussi, et des instituteurs. Les ouvriers et les ouvrières vivaient dans d'autres, encore plus petites, créées autour des usines, sans école ni rien, avec les maisons en enfilade, qui sont aujourd'hui de terribles endroits de désolation. Hazal constate que 4 ou 5 groupes se sont agrégés. Une 20aine d'enfants qui forment une ronde. La réunion exceptionnelle a lieu un peu à l'est du platane. Hazal s'inquiète d'entendre des cris plus rauques, des rires plus perçants qu'à l'accoutumée, et cette étrange formation circulaire n'a rien pour la rassurer. Quelque chose se passe là-bas qu'elle ne va pas aimer, elle en est sûre. Rien n'est bon dans un regroupement circulaire. La convergence des attentions décuple l'effet de la masse, désinhibe les pulsions de cruauté, et l'intervention d'une personne extérieure représentant l'autorité est souvent la seule solution pour échapper à l'escalade de la brutalité. La Turque sait pertinemment tout ça, pas parce qu'elle a appris les mots qu'il convient de mettre dessus à l'université, mais parce qu'elle est observatrice, et l'a toujours été. Hazal s'est retrouvée, plus d'une fois, au centre de ce genre de cercle. L'image de sa collègue aux jambes tordues en train de nettoyer le réfectoire en ce moment lui traverse l'esprit, accompagnée de la certitude que beaucoup de cantinières ont dû se retrouver à un moment donné au centre de ce genre de cercle. Elle secoue la tête en avançant vers la ronde inquiétante pour que l'idée s'évapore et être toute à ce qu'elle va devoir faire, concentrée pour déceler rapidement les enjeux du rassemblement, les dénouer et mettre fin à ce sabbat de plein midi. Anita ne l'a pas vraiment vue venir, celle-là. Elle ne se serait jamais doutée que ce genre de choses pouvait lui arriver, bien qu'elle ait entendu des histoires et vu des dessins animés où ce genre de choses arrive précisément. Anita, si tranquille dans sa position d'outsider sereine, le regard porté sur le monde de ses petits contemporains, les gestes rares et jamais trop engageants, ne s'était jamais dit que son attitude n'était peut-être pas due qu'à des choix de sa part, et ne s'était surtout jamais rendu compte que cette même attitude pouvait éveiller les soupçons, la méchanceté, voire la haine de ses petits et petites camarades, comme tous les gens de plus d'1,50 m sans tête allaient désigner. Au milieu du cercle qui s'est formé autour d'elle après que deux jeunes filles d'une autre classe, plus grandes et plus fortes physiquement, l'ont entraînée sous des prétextes fallacieux, Anita regarde les visages rouges, crachants et vitupérants de ces gens jeunes en âge, et ces mots qui sont répétés sans relâche par les adultes, « petits camarades », lui tournent dans la tête et l'empêchent de répondre aux invectives, même de bien les comprendre. Le « petit » de « petit camarade » ne désigne peut-être pas que la taille des camarades en question, mais celle de la camaraderie. Personne ne l'a menacée physiquement, pas encore, mais le corps d'Anita lui intime de se prémunir de dangers hypothétiques. Le corps sait mieux, il faut lui faire confiance. Pendant que les choses se passent, les oreilles et les yeux d'Anita enregistrent tout ce qui se crie et se chuchote pour pouvoir se repasser le film plus tard à tête reposée. Pour l'instant, elle n'est capable que d'essayer de calmer la respiration affolée qui soulève de façon erratique sa jeune poitrine et lui provoque des douleurs dans les côtes. Les deux filles sont venues vers elle alors qu'elle était adossée au platane, en train de regarder les feuilles et se ressourcer aux cris joyeux et au claquement des ballons sur le sol dur. Elle ne pensait à rien de précis, elle digérait tranquillement, et avait son petit sourire mystérieux sur les lèvres, celui qu'elle a quand elle ne fait rien de particulier, quand elle est juste vivante et tranquille. Alors, une voix a prononcé son prénom sur sa droite, une voix aiguë et enjouée qui détachait les syllabes et donnait à ce mot qu'il a désigné la rondeur d'une bulle, le pétillant d'un soda. Une main touche sa manche. Celle qui a commencé à parler continue. Son acolyte lance de grands sourires aux yeux pétillants en jouant avec sa tresse blonde.
Fête d'anniversaire, qu'est-ce que tu penses? Si on met des ballons partout et une piscine de boules, tu as déjà fait ça, toi, plongé dans une piscine de boules? Viens, on va par là, on ne s'est jamais vraiment parlé, mais ma petite sœur est dans ta classe, tu sais, c'est Clémence. Moi je m'appelle Inès et elle c'est Zélie, tu trouves pas ça bizarre Zélie comme prénom? Moi je trouve ça bizarre mais joli, c'est Zoli quoi. C'est pour son anniversaire, à Clémence, maman veut faire une boum, tu sais ce que c'est une boum? Ok, alors tout le monde est invité et en plus, comme tu n'as pas d'amis, peut-être que ce sera l'occasion, tu vois. Il fait beau, hein. Maman dit que quand il y a du soleil comme ça, ici, il vaut mieux y rester plutôt qu'à l'ombre pour bronzer. Bon, en même temps, toi tu n'as pas vraiment besoin de soleil pour bronzer, t'es toujours bronzé, même en hiver, tout le monde a remarqué. Même ma copine Zélie là, elle est un peu jalouse. Elle dit des fois qu'elle aurait aimé avoir un père arabe comme toi pour avoir la peau bronzée aussi. Ben, c'est vrai que tu dis ça, ne fais pas non de avec ta tête. Anita, elle comprend bien que c'est pas méchant. N'est-ce pas Anita que tu comprends bien que c'est pas méchant? C'est pour apprendre à se connaître, on se pose des questions, on t'intègre, on te fait des confidences, c'est important l'intégration. Parlant de questions, moi j'en ai deux, une pas très importante et une plus importante. Tu voudrais bien y répondre pour moi? Anita, pourquoi tu ne dis pas oui? Pourquoi tu hésites Anita? Si tu dis pas oui, je te les pose pas, mais pas d'anniversaire. Je suis un peu responsable des invitations, c'est ma mère qui m'a dit que j'étais chargée de faire ça, et c'est très clair qu'il ne faut pas d'enfants qui font des secrets et ne répondent pas aux questions pour l'anniversaire de ma petite sœur. Elle a 2 ans de moins que moi, je dois surveiller ses fréquentations, c'est très sérieux d'être l'aînée, tu sais. Alors, oui? Tu dis oui? C'est bien. Tu es une fille bien, Anita. Tu es peut-être un peu trop timide, mais ça se travaille, ça, la timidité. Ma mère, elle dit toujours qu'avant, elle était timide, mais elle a travaillé dessus, et depuis, elle est conseillère municipale. Alors, ma première question, c'est... Est-ce que ton père, il est arabe? Mais celle-là, c'est plus pour ma copine, parce que moi, je pense que vu ton bronzage, ton père, il est plus latino. Tu sais pas? Tu connais pas ton père? Ah, d'accord. Et ta mère, c'est la dame sans les bras, on est bien d'accord? Oui? Ok, alors celle-là, elle est importante, Anita. Ta mère, c'est vrai que c'est une sorcière?
C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.